Les leçons de l'histoire internationale. La chronique animée par Georges-Henri Soutou de l'Académie des sciences morales et politiques. Une chronique régulière que vous retrouverez 4 ou 5 fois dans l'année. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Quel thème avez-vous choisi pour cette première chronique ?
Banqueroute d'État et consolidation dans l'histoire.
Et pourquoi ce thème ?
Parce que depuis un an, on redécouvre quelque chose que les Européens avaient oublié. Les États peuvent faire faillite. Je pense bien sûr à la Grèce, dont le sort financier n'est pas encore réglé à l'heure actuelle. Certains, dont Mme Merkel, étaient au début de la crise grecque, partisans de laisser ce pays quitter la zone euro, sortie qui aurait été accompagnée probablement d'une banqueroute partielle et d'une forte dévaluation. On a choisi pour le moment une autre voie, on verra la suite. Mais l'historien sait bien que la banqueroute d'État n'est pas du tout une anomalie, que ce n'est pas une exception rarissime. On compte en effet plus de 300 faillites d'État depuis le début du XVIIIe siècle.
Et l'histoire offre quelques vues utiles peut-être pour resituer les choses.
Eh oui. Et le sixième jour, Dieu créa le débiteur, aimait à dire un grand banquier international des années 1920, Thomas Lamont, de la Réserve fédérale américaine. Il citait un pseudo-proverbe roumain que je n'ai jamais pu vérifier. Mais s'endetter est en effet le propre de l'homme. Rembourser va contre sa nature la plus profonde. C'est d'ailleurs en soi une attitude parfaitement normale, voire saine. En effet, on peut démontrer mathématiquement qu'il vient un moment où il est rigoureusement impossible de rembourser un capital accru régulièrement de ses intérêts composés, car ce capital tend vers l'infini. Bien entendu, on ne pratique pas ainsi. Le service de la dette d'un État ou le plan de remboursement des dettes d'un débiteur privé prévoit, outre le versement des intérêts, un remboursement du capital selon des échéances bien définies. Mais globalement, pour les États, la remarque reste en gros valable, car il vient un moment où, s'ils perdent le contrôle de leurs finances, ils doivent emprunter pour assurer le service de la dette accumulée précédemment.
Oui, mais l'histoire toujours elle, nous apprend qu'il existe différents moyens pour les États de s'en sortir. Et de quels moyens s'agit-il ?
Il y en a plusieurs, effectivement. On peut pratiquer une banqueroute totale ou partielle. En France, la dernière banqueroute en date fut celle que proclama le Directoire en 1798, une forte banqueroute partielle. Où on peut manipuler le poids et le titre des monnaies métalliques, lorsqu'on a encore des monnaies métalliques. C'était le système favori des Capétiens, qui reniait, comme on disait, régulièrement le poids des espèces monétaires, du moins jusqu'à Louis XV et Louis XVI, qui ont été là exemplaires et ne touchèrent plus à la livre redéfinie en 1713 de façon extraordinairement durable. Le franc germinal de Bonaparte renoua en effet après la tourmente révolutionnaire avec la livre du début du XVIIIe siècle, avec le même poids en métal précieux, et ce franc germinal devait rester identique et stable jusqu'à la guerre de 1914. Puis le troisième moyen, c'est l'avatar moderne de ces manipulations, c'est ce que Keynes appelait l'euthanasie des rentiers, par l'inflation qui progressivement mange le capital investi ou encore plus simplement par la dévaluation de la monnaie.
Et n'y a-t-il pas des limites à ces procédés ?
Oui, il y a des limites car l'État qui se débarrasse aujourd'hui de tout ou partie de sa dette sera bien obligé de retrouver tôt ou tard des prêteurs. Il ne faut donc pas effaroucher ceux-ci au-delà du raisonnable pour pouvoir retrouver leur confiance. Mais là, l'Europe de la bourgeoisie triomphante au XIXe siècle, qui avait gardé un très mauvais souvenir des banqueroutes et manipulations monétaires de l'Ancien Régime, l'Europe donc inventa à la fin du XVIIIe siècle le couple magique consolidation et amortissement.
Consolidation et amortissement, dites-vous, ce sont des termes qui donnent plutôt confiance.
Tout à fait, on admirera le choix des mots. La consolidation, c'est en fait ce qu'on appelle aujourd'hui en anglais le partial default, la faillite partielle. Mais est-ce que l'auditeur ne sent pas ce que ce mot de consolidation comporte de positif, de rassurant, consolidé, n'est-ce pas ? Avec en plus une nuance d'absolution pour les erreurs du passé et de rédemption par l'effort et la vertu budgétaire et fiscale. Alors que le partial default d'aujourd'hui est désespérant, évoque la chute, le déshonneur d'un pays. Je dirais la même chose pour l'amortissement. L'amortissement sonne beaucoup mieux que plan de rigueur ou programme du Fonds monétaire international. C'est presque du cocooning budgétaire. On amortit la dette, mais on amortit aussi les chocs. Même si cela revient, mais en partie seulement, on va le voir, si cela revient au même, car cela exige du pays concerné rigueur et sacrifice. Au fond, c'est le directoire en France qui a inventé la formule. Tout commence en effet avec lui. Après les folies financières et monétaires de la Révolution, il dut proclamer, je l'ai dit, une banqueroute des deux tiers. Mais il inscrivit le tiers restant de sa dette, dit tiers consolidé, qui donc restait acquis au prêteur. Ce tiers consolidé, c'est l'origine du mot, fut inscrit sur le grand livre de la dette publique créé à cette occasion. Cependant, le directoire était un régime faible et corrompu, et il fut incapable d'aller plus loin dans l'assainissement.
Et alors, c'est donc Napoléon Bonaparte, premier consul, qui a pratiqué l'assainissement de la situation.
En effet, cet assainissement des finances publiques et de la monnaie fut repris et achevé par Bonaparte, premier consul. Celui-ci réinscrivit dans le grand livre de la dette publique les deux tiers de cette dette qui avait été sacrifiée par le directoire, mais simplement avec un abattement de 95%. Cela dit, après la catastrophe des assignats et la banqueroute partielle, les porteurs s'estimaient heureux, malgré cette perte, d'avoir désormais un remboursement et un taux d'intérêt garanti, donc consolidé. En outre, une caisse d'amortissement créée à l'occasion avait pour tâche, avec des ressources propres clairement définies et qui restaient encore de biens nationaux, cette caisse donc avait pour tâche d'assurer le service de la dette en dehors des aléas du budget annuel. Consolidation et amortissement allaient de pair, l'un assurant la crédibilité de l'autre. On réduisait la somme que l'on rembourserait aux créanciers, mais on garantissait que cette fois-ci serait effectivement payée. D'autant plus que la création à la même époque du franc germinal faisait que le service de la rente serait effectué en vraie monnaie et pas en assignat ou en bons divers, comme c'était le cas depuis la Révolution.
Mais après ce franc germinal utilisé jusqu'à la Première Guerre mondiale, le XXe siècle a-t-il connu ces mesures d'assainissement monétaire qui avaient été inaugurées sous Bonaparte ?
Et d'une façon assez comparable, on peut rappeler ici l'action de Raymond Poincaré, revenu à la présidence du Conseil en juillet 1926, en pleine tourmente, de nouveau pleine tourmente financière et monétaire. Il rééquilibra le budget, ce qui stoppa l'endettement rapide de l'État. Il créa une caisse d'amortissement avec des ressources spéciales affectées de façon permanente, donc il reprit la même formule que Bonaparte au moment du consulat, étant donné que ces ressources spéciales serviraient à garantir le service de la dette existante, qui était évidemment considérablement accrue depuis la Grande Guerre. L'assainissement, le retour de la confiance, répercutèrent de façon favorable sur la tenue du franc face aux autres devises, ce qui permit sa stabilisation en 1928 après la chute de valeur des 4/5, en gros subie depuis 1914. C'est ce qu'on a appelé longtemps le franc Poincaré. L'autonomie de la caisse fut inscrite spectaculairement dans la Constitution le 10 août 1926 par un vote des deux chambres réunies à Versailles en Assemblée nationale. Et l'auditeur est prié ici de ne pas sourire s'il se souvient d'un projet d'inscription de la Constitution en Congrès de la fameuse règle d'or. Néanmoins, l'auditeur est autorisé à constater qu'il ne s'agissait pas tant d'inscrire un principe de rigueur des finances publiques dans la Constitution, mais d'inscrire dans la Constitution une institution chargée de mettre en œuvre effectivement ce principe de rigueur. En contrepartie, on supprimait les bons du Trésor à court terme, 3 mois, qui avaient été introduits pendant la guerre, qui étaient très appréciés des épargnants, car c'était un instrument très souple, très rémunérateur, mais ruineux pour l'État, n'est-ce pas ? Et en plus, comme leur taux de renouvellement chaque trimestre était imprévisible, les gens pouvaient éventuellement ne pas les racheter, cela représentait une épée de Damoclès pour les finances publiques.
Donc, dans les deux cas, on a assisté à la combinaison d'une série de mesures.
Oui, une série de 3 mesures. Primo, réduction ou au moins restructuration de la dette, avec une modification des délais de remboursement et des taux d'intérêt, c'est ça la consolidation. Deuxièmement, un assainissement des finances publiques pour rendre la première mesure évidemment crédible. Et troisièmement, l'affectation de certaines des ressources ainsi dégagées au service de la dette pour, comme on dirait aujourd'hui, les sanctuariser en dehors des aléas du budget annuel. En d'autres termes, en compensation de la perte d'une partie de leurs créances, les porteurs de la dette bénéficiaient d'une sécurité garantie pour le reste.
Et qu'en est-il à l'échelle internationale ?
Les mêmes principes s'appliquèrent plus tard au niveau international, après que les États eurent perdu l'habitude de récupérer les créances de leurs ressortissants auprès des pays débiteurs récalcitrants à coups de canon. C'est la fameuse diplomatie de la canonnière au XIXe siècle. L'Empire ottoman dut accepter, en échange d'une restructuration de sa dette extérieure, la création d'une caisse de la dette ottomane qui était sous le contrôle des banques françaises et britanniques, qui était chargée de garantir le service de cette dette et qui pour cela disposait de ressources affectées, certains revenus de l'Empire ottoman. On procéda de même après la paix de 1919 avec l'Autriche ou la Bulgarie qui se retrouvaient complètement ruinées. Des accords internationaux, ici dans le cadre de la Société des Nations, le Fonds monétaire international n'existait pas encore à l'époque, ces accords donc organisèrent un ensemble de mesures qui étaient assez équilibrées, restructuration de la dette de ces pays, affectation de ressources, surveillance internationale pour rassurer les prêteurs et prêts des banques étrangères, des grandes banques anglo-saxonnes et françaises, pour faciliter la phase de transition. Bien entendu, tout cela était rude pour les pays concernés. Cela comportait en outre une certaine mise sous tutelle, mais cela a fonctionné. On l'a oublié après avec la crise des années 30, mais ça a fonctionné jusque-là.
Georges-Henri Soutou, quel enseignement ces leçons des siècles passés nous apportent-elles pour notre 21e siècle? Et puis, quelles questions aussi?
Eh bien, la mise sous tutelle des États en faillite n'a pas disparu de nos jours. Elle ne se fait plus désormais par des consortiums bancaires privés, comme au XIXe siècle. Elle se pratique sous l'égide du Fonds monétaire international, éventuellement en coopération avec l'Union européenne, comme on le voit dans le cas grec en cours de négociation. À tout prendre, vaut-il mieux être mis sous la tutelle impersonnelle d'organismes internationaux bureaucratiques ou, comme on l'était au XIXe siècle, sous la tutelle de groupes financiers privés qui avaient vocation à poursuivre ou à reprendre leurs affaires dans les pays concernés et qui donc devaient veiller à ne pas trop les pressurer? C'est une question que l'on peut se poser. Bien entendu, la réponse est tout à fait libre. Une fois de plus, certes, nous ne sommes plus au XIXe ni même au XXe siècle. La connaissance du passé peut aider à prendre du recul dans les débats actuels.
Merci monsieur et à plus tard pour d'autres chroniques.
Très volontiers.